C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs. I have a dream.
Allô, bonjour, c'est Charles Cécile. Alors aujourd'hui, je vous emmène chez la dame de Pique. Enfin, la dame de la rue Le Pique. Il s'agit de la conteuse Anikis. Alors pour les gens qui aiment le conte, eh bien Anikis est quelqu'un de très important. C'est un pilier, quoi, une star modeste de la littérature orale. On dit d'elle qu'elle est la conteuse qui a le plus grand répertoire. Et si le grand public ne la connaît pas beaucoup, c'est qu'en fait, elle n'a édité ni disque ni livre. Ce que vous allez entendre est un des rares enregistrements de la voix d'Anikis. Et assez pas pour dire, on en est très fiers. Pour interviewer Anikis, j'ai mandaté une autre conteuse, qui est Anne-Gaëlle Goduchaud. Et je vous laisse donc en compagnie d'Anne-Gaëlle Goduchaud et d'Anikis. À bientôt.
Alors voilà. Le métro, les marches de la butte Montmartre, la statue de Dalida. Je vais ce matin rejoindre Anikis, celle dont on dit qu'elle a le plus grand répertoire d'histoire de toutes les conteuses. Elle habite dans la petite rue Le Pic. Et je suis très curieuse de voir cet appartement dont, depuis des années, j'entends parler et que j'imagine... comme une espèce de grande caverne d'Ali Baba remplie de livres. Ça grimpe, et nous voilà dans la rue Le Pic. C'est vraiment le quartier, un peu le cliché de Paris pour les touristes. Les pavés, le bateau lavoir, Picasso, Cocteau, et puis Anouk Aimé qui habite pas loin, et tout près, Anikis. Quelle aventure! J'avais oublié mon téléphone, alors j'ai dû aller dans une petite boutique de souvenirs, de magnettes, de posters, de Tour Eiffel et de Butte Montmartre pour demander à téléphoner. Et la dame du magasin, très gentille, m'a non seulement laissé téléphoner de son magasin, mais en plus elle m'a offert un café. Alors nous, en province, je chuchote parce que nous, en province, on pense que les Parisiens sont tous des chiens. Mais c'est pas vrai. Elle m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit, mais vous savez que je vais faire l'interview d'une star qui habite à côté de chez vous. Elle m'a dit, une star de quoi? Je lui ai dit, du conte. Elle m'a dit, de quoi?
Problème, pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune
Annie,
est trop rousse de gloire éclabousse,
ton oui.
Jupon plein de trous.
Tu m'offres?
La lune est trop pâle.
C'est que j'ai oublié mon téléphone à la maison.
Oh.
Alors, comme j'avais mis ton code dedans.
Princesse de la
rue. Voilà, allez, viens en bas de chez toi.
Dans mon cœur blessé.
Alors, c'est ce que j'ai fait.
Ah oui, t'avais pas le corps.
Non, du coup, j'avais.
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Alors, me voilà dans ton antre. Donc tu m'as tellement, tellement parlé.
Un vrai cafarnaum.
T'es là depuis combien, 40 ans, non?
Oui, 43 ans que je suis là.
C'est très beau chez toi.
Bah, oui, évidemment, là t'as
pas... t'as les toits, toute la...
Malheureusement, il fait pas beau, mais quand il fait beau, je vois des couchers de soleil absolument faramineux.
Notre-Dame à gauche, normalement, on doit...
T'as Notre-Dame à gauche, la Tour Eiffel, les Invalides, et à droite, c'est quoi ça?
L'Arc de Triomphe, et puis là-bas, la Défense, à droite. Alors là, attends, je vais ouvrir...
Je comprends que t'aies pas envie de partir, c'est pas
grave. Évidemment, seulement, évidemment, que l'appartement, il est de plus en plus décrépit. Et...
Tiens, il y a la maison de Davida à droite.
C'est quoi, la maison de...
On voit de Davida.
Alors dis-moi quelque chose sur toi.
Sur moi?
Ouais.
Je m'appelle Annie Kiss.
Annie Kiss.
Kiss, comme bisou en anglais, comme je dis toujours. Mais en fait...
Tout le monde, tu sais que les gens, quand ils ne te connaissent pas, ils pensent que c'est un faux nom.
Voilà, ils pensent que c'est un faux nom et ils pensent que c'est anglais, n'est-ce pas? Alors que pas du tout, c'était le nom de mon mari et c'est Kish en hongrois, ce qui veut dire petit. C'est donc un nom hongrois. Et... J'ai pris ce nom quand je me suis mariée, et puis par la suite, je me suis dit que j'allais le garder. D'abord, ça se retient facilement, et puis je ne pensais pas que j'allais être plus ou moins connue, et c'était trop tard pour changer de nom après. J'avais bien cherché, mais bon, c'est resté comme ça. Ça fait un peu sourire les gens, mais après tout, on ne rit jamais trop dans une vie, donc voilà. Alors, de mon nom de jeune fille, je m'appelle Bago, en fait. Et c'était le nom de mon père, qui était musicien, qui était compositeur et chef d'orchestre. Et qui n'est pas connu, malheureusement, bien trop peu connu, car j'aime beaucoup sa musique.
Alors, par quoi commencer? Tu racontes des histoires depuis combien de temps?
Alors, je pense que j'ai dû raconter des histoires depuis fort longtemps. Même quand j'étais gamine, j'en racontais pour ma sœur, qui s'ennuyait tout le temps. Les enfants, vous savez, « Oh, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire ». Et je faisais même mieux, puisque je lui faisais des petits spectacles avec des objets, comme je fais maintenant avec les tout-petits. Je faisais ça dans une ouverture de ma chambre qui donnait sur la grande salle. Il y avait des rideaux, et donc ça faisait comme un petit castelet. J'ai donc dû commencer assez tôt. Et puis en plus, quand nous étions... Je n'allais pas à l'école, ma sœur non plus. On était dans un petit village du Midi, à Cabris. C'est notre mère qui se chargeait de notre éducation. Et donc, nous avions un petit théâtre, ça devait dater de notre arrière-grand-père, enfin qu'on pouvait monter, un petit théâtre en carton avec une scène, des tringles, et on pouvait faire évoluer des petits personnages. Et du coup, on pouvait jouer toutes les pièces du répertoire et en inventer naturellement. Donc on jouait énormément avec ce petit théâtre-là. Il faut dire aussi que mon père devait avoir certains dons pour compter. Il s'asseyait dans un grand fauteuil, ma sœur et moi, de part et d'autre, et il nous racontait les opéras célèbres en chantant les grands airs. Et nous étions Artémis et Cunégonde qui entrions dans les opéras. Évidemment, ça rendait plus vivant. Thank you.
fenêtre du haut. Je l'ai mise à la portière, mon pauvre cœur déconsolable. Mon cœur est libre comme l'air. J'ai des galants à la douzaine, mais ils ne sont pas à montrer. Voici la fin de nos semaines.
Je suis toujours rue Lepic, chez Anikis, installée et bien installée, oreille grande ouverte pour entendre l'histoire du Chevalier Vert.
Le roi Arthur, la reine Guenièvre et tous les chevaliers de la Table Ronde se trouvaient au château de Camaloth. Depuis 15 jours, ce n'était que festivités et réjouissances de toutes sortes. Le soir du nouvel an, au moment où on s'apprêtait à souper, un étrange cavalier est entré dans la grande salle du festin. C'était un être terrifiant, un géant massif et puissant. Son épaisse chevelure et sa barbe opulente étaient d'un vert intense. Il était entièrement vêtu de vert. Son cheval était harnaché de cuir vert. Le colosse tenait dans sa main gauche une branche de houx, dans sa main droite une énorme hache étincelante. Le géant aux cheveux verts a jeté un regard circulaire dans la salle. « Lequel d'entre vous est le roi ?» Toute l'assemblée restait figée, muette de stupeur. Enfin, le roi Arthur s'est ressaisi. Il s'est avancé vers l'étranger. « Je suis le roi. Soyez le bienvenu. Prenez place parmi nous et partagez notre repas. »« Non, merci. Je ne puis rester. Je suis seulement venu vous lancer un défi. » À vous et à vos chevaliers. Y a-t-il ici quelqu'un d'assez hardi pour échanger quelques coups avec moi ? Voici la règle du jeu. Mon adversaire me portera un coup et il devra venir me trouver dans un an et un jour pour que je lui rende le coup qu'il m'aura porté. Un silence de mort a accueilli cette proposition. Comment ? Suis-je donc à la cour du roi Arthur ? Face au fameux chevalier de la Table Ronde, dont la réputation de courage et d'honneur a dépassé les limites de la chrétienté, personne n'ose relever mon défi. Le roi Arthur, vexé, s'est redressé. Votre jeu semble absurde, mais je l'accepte. Donnez-moi votre hache. À ce moment, Gauvin, le plus jeune des chevaliers, s'est précipité. Sire, « laissez-moi relever le défi, je vous en prie. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire mes preuves. Ce sera un honneur pour moi. » « Dans ce cas, noble Gauvin, voici la hache. Frappez hardiment. » Le chevalier vert a mis pied à terre. Il a regardé Gauvin. « Quel courageux adversaire !»« Messire Gauvin, vous devez me jurer que vous viendrez me retrouver dans un an et un jour pour que je vous rende votre coup. » Vous avez ma parole. » Alors le chevalier vert s'est agenouillé devant Gauvin. Il s'est penché en avant. Il a écarté son épaisse chevelure verte pour dégager son cou. Gauvin a levé la hache étincelante et l'a laissé retomber lourdement. Il a tranché la tête du chevalier vert. Le sang a giclé. La tête, toute hérissée de barbe et de cheveux verts, a roulé sur le sol. Mais le chevalier vert n'a pas bronché. Il s'est relevé, il est allé ramasser sa tête, l'a mise sous son bras, et il est remonté à cheval. Au moment de sortir, la tête s'est tournée vers Gauvin. « Gauvin, n'oublie pas, je t'attends dans un an et un jour à la chapelle verte, et je te rendrai le coup que tu m'as porté. » Et le chevalier décapité a éperonné son cheval et a quitté la salle, dans la stupéfaction générale. L'année a vite passé, trop vite pour Gauvin, qui a dû se préparer à partir à la recherche de la chapelle verte. Le roi Arthur, la reine Guenièvre, tous les chevaliers et leurs épouses sont venus lui souhaiter bonne chance et l'encourager. Mais beaucoup d'entre eux craignaient de ne jamais le revoir. Le lendemain, à l'aube, Gauvain a revêtu sa pelisse bordée de fourrure, a endossé son armure, fixé ses éperons, ceint son épée, ajusté son haume. Puis, muni de son écu et de sa lance, il est sorti dans la cour où l'attendait son cheval, Gringalet, magnifiquement harnaché. Et Gauvain est parti pour la grande aventure. Jamais l'hiver n'avait été aussi rude. Le ciel était sombre et neigeux. La campagne et la forêt étaient couvertes de neige. Les rivières étaient gelées. Une bise glaciale sifflait entre les branches noircies des arbres dégarnis, d'où pendaient des stalactites de glace. Gauvain s'enfonçait dans un pays sauvage et inhospitalier. Il devait le plus souvent dormir à la Belle Étoile, car il rencontrait bien peu d'habitations sur son chemin. Et le petit matin le trouvait à demi-mort de froid. Gauvain a continué à errer dans ses solitudes glacées et a dû affronter bien des dangers. Il a dû combattre des dragons au souffle de feu, des tribus de gnomes qui fondaient sur lui du haut des montagnes où ils habitaient, des hordes de loups affamés. Il a été attaqué par des ours, des sangliers et même des ogres qui l'attendaient à l'orée de la forêt pour l'abattre plus aisément. Mais son pire ennemi, c'était le froid. Ses vêtements gelaient sur sa peau, son armure était recouverte d'une fine couche de glace, et son bouclier et ses armes étaient si froids qu'il pouvait à peine les saisir. Et personne n'avait pu lui dire où se trouvait la chapelle verte. La veille de Noël, Gauvain était complètement découragé. Il était bien prêt de renoncer et de rebrousser chemin. Mais le matin de Noël, le ciel s'est éclairci. La neige avait cessé. Gauvain a aperçu, à travers les arbres dénudés, un énorme château perdu au milieu des bois. C'était le château le plus magnifique que Gauvain ait jamais vu. Des oriflammes de toutes les couleurs flottaient en haut des tours éclairées par le soleil levant. Gauvain s'est dirigé vers la poterne et a appelé le portier. « Messire, veuillez mander au seigneur de ce château s'il veut bien m'accorder l'asile pour la nuit. » Quelques instants plus tard, le pont-levis s'abaissait. Un écuyer menait Gringalet à l'écurie, tandis que deux serviteurs retiraient à Gauvain son armure et le conduisait dans une grande salle où le maître du château se chauffait devant un feu flamboyant. Le seigneur de Bercilhac, car tel était son nom, était un homme de haute taille et portait une opulente barbe rousse. Il a accueilli Gauvain avec jovialité. « Seigneur chevalier, vous êtes le bienvenu. Considérez que ce château et tout ce qu'il contient est à vous. » Le seigneur de Bercilhac a ensuite fait visiter sa vaste demeure à Gauvain, qui a pu admirer une série de salles magnifiquement meublées. Puis Bercilhac a offert à son hôte des tuniques de velours et d'hermine et l'a ramené devant la cheminée, où ils ont somptueusement soupé de mets rares et de vin fin. À minuit, le seigneur de Bercilhac et sa jeune épouse ont emmené Gauvain à la chapelle du château pour y entendre la messe de la nativité. L'épouse de Bercilhac, une ravissante jeune femme, agenouillée face à l'autel, semblait plongée dans ses prières. Mais elle regardait Gauvain à la dérobée par-dessous ses cils et ne pouvait détacher les yeux d'un aussi beau jeune homme. À la fin, sa curiosité l'a emportée. Elle a glissé sur son banc pour se rapprocher de lui. Elle était accompagnée d'une vieille femme, aussi laide et tassée qu'elle-même était belle et élancée. Gauvain s'est incliné poliment devant la vieille femme, puis il s'est absorbé dans la contemplation de la jeune femme. Il admirait son teint clair, ses yeux rieurs et lumineux, son visage parfait, ses cheveux dorés. Gauvain a été tiré de son extase par l'époux de la dame, le seigneur de Bercilhac, qui venait lui offrir une coupe de vin chaud et épicé avant de le conduire à sa chambre. Pendant les 3 jours suivants, Gauvain a été traité avec magnificence. Le quatrième jour, il a annoncé qu'il devait partir à la recherche de la chapelle verte. Le seigneur de Bercilhac s'est esclaffé. « La chapelle verte ? Mais elle est tout près d'ici, à moins d'une heure du château. Vous avez le temps. Restez donc parmi nous jusqu'au nouvel an et amusez-vous. » Gauvain a accepté l'invitation avec empressement. « Vous devez vous reposer, lui dit Bercilhac. Vous avez fait un voyage long et fatigant. Je vais chasser demain matin. Je vous conseille de rester au lit. Mon épouse s'occupera de vous. Et faisons un marché. Le soir, à mon retour, je vous donnerai le produit de ma chasse. Et en échange, vous me direz ce que vous avez gagné dans la journée. » Le lendemain, à l'aube, Bercilhac est donc parti chasser avec toute sa suite, et Gauvain est resté couché. Un peu avant midi, il a entendu la porte de sa chambre s'ouvrir doucement, et entre ses yeux mi-clos, il a vu entrer la dame de Séan, la jeune épouse de Bercilhac. Elle s'est approchée sur la pointe des pieds et s'est assise au bout du lit. Elle est restée là à observer Gauvain, attendant qu'il se réveille. Gauvain était très gêné. Il faisait semblant de dormir. Puis, voyant que la jeune femme n'avait pas l'intention de se retirer, il a ouvert les yeux et s'est étonné de sa présence. Et la dame lui dit « Bonjour, messire Gauvain, avez-vous bien dormi ?»« Bonjour, madame, » répond Gauvain du fond de son lit. Et la dame reprend « J'ai ordre de prendre soin de vous. Je vais vous garder au lit et vous devrez faire ce que je vous dirai. Vous êtes connu à travers toute la chrétienté pour votre honneur et votre courage. C'est donc mon unique chance de disposer, pour moi seul, d'un si fameux chevalier. Je suis ici pour vous plaire. » Gauvain, tout confus, lui répond « Madame, vous êtes trop bonne. Je ne suis pas le héros que vous décrivez. Mais si je puis vous être utile, en tout bien tout honneur, j'en serai heureux et fier. » « Bien des femmes de ma connaissance préfèrent l'amour aux actions héroïques. Madame, mais vous n'y pensez pas. Votre époux est mon hôte. Je ne puis trahir sa confiance. Mais si vous m'acceptez comme votre chevalier servant, je me placerai volontiers sous votre bannière. » « Oui, peut-être. Nous verrons plus tard. » Thank you.
Je suis toujours avec Annie Kiss. Pour nous, la conteuse raconte Le Chevalier Vert, qui est un des récits du grand cycle du roi Arthur.
Mais parlons d'autre chose. Et la dame, en souriant, prend les mains de Gauvain dans les siennes et se met à parler de choses et d'autres, et surtout des prouesses du jeune chevalier. Enfin, elle se lève pour se retirer. « Messire Gauvain, je pense qu'un homme aussi connu que vous pour sa galanterie ne peut laisser une femme le quitter sans l'embrasser. Je suis votre serviteur. » Et Gauvain, rougissant, effleure de ses lèvres la joue délicate de la jeune femme. Enfin, elle s'en va, au grand soulagement de Gauvain. Le soir, les chasseurs reviennent. Bersilac avait tué un cerf magnifique. « Il est à vous, messire Gauvain. Et vous, qu'avez-vous à me donner en échange ?» Sans un mot, Gauvain s'approche de Bersilac et l'embrasse sur la joue. Bersilac éclate de rire, donne une grande claque dans le dos de Gauvain et, bras dessous, les deux hommes s'en vont dîner. Ils boivent plusieurs bouteilles de bon vin et décident de remettre leur marché au lendemain. Le matin suivant, à l'aube, Bersilac s'en va chasser. De nouveau, sa jeune épouse entre dans la chambre de Gauvain et s'assied sur son lit. « Eh bien, messire Gauvain, avez-vous oublié ce qui s'est passé hier entre nous? Ne me demandez-vous pas un baiser? Je n'aurais pas osé demander une telle faveur, de peur qu'elle ne me soit refusée. Mais osez, Gauvain, osez !» Et Gauvain pose à nouveau un baiser sur la joue de la jeune femme. Puis il se met à lui faire la cour jusqu'à l'heure de la messe. Le soir, Bersilac rapportait de la chasse un énorme sanglier. Il le présente à Gauvain et raconte le mal qu'il a eu à forcer l'animal après une furieuse poursuite. En échange, Gauvain l'embrasse sur la joue. La soirée se passe fort gaiement. On mange, on boit, on écoute des chants de Noël. La dame dévisageait Gauvain sans se gêner, et lui faisait semblant de ne rien remarquer. Le troisième jour, la veille du nouvel an, Bersilac s'en va chasser aux premières lueurs du soleil, pendant que Gauvain, lui, dort à point fermé. Il sait bien qui viendra le réveiller. Quand elle entre dans sa chambre, la dame est plus belle que jamais. Elle porte une robe légère, parée de fourrure, largement décolletée dans le dos comme sur la poitrine. Elle est savamment coiffée. À peine entrée, elle ouvre les volets, tire les rideaux du lit et se met à embrasser Gauvain sans retenue. Gauvain marmonne, bredouille, ouvre les yeux, et la voyant si belle, et comment elle le dévore des yeux, Gauvain est bien tenté de renoncer au défi qu'il a amené ici. La dame lui prend les mains. « Quel curieux homme vous êtes, messire Gauvain! Comment pouvez-vous me résister? Auriez-vous donné votre cœur à une autre femme? Ou bien êtes-vous insensible à l'amour? » Hélas, non, madame, il n'en est rien. Mais je ne peux pas tomber amoureux en ce moment. Oh, c'est la pire réponse que vous pouviez me faire, dit la dame en retirant ses mains. Oh, je vois que je n'ai aucun espoir. Aussi, je vais vous laisser tranquille. Mais avant de partir, donnez-moi quelque objet qui me fera souvenir de vous. Votre gant, par exemple. Ainsi, en le voyant, je me souviendrai des doux moments que nous avons passés ensemble. Vous ne pouvez pas me refuser ce cadeau. « Hélas, madame, vous méritez tellement mieux que ce que je puis vous offrir. Je n'ai rien emporté avec moi qui soit digne de votre beauté. Alors c'est moi qui vais vous faire un présent. » Et la dame retire de son doigt un anneau d'or serti de diamants. « Non, vraiment, madame, je ne puis accepter un bijou d'un tel prix. » La dame soupire. « Il est bien difficile de vous contenter, Gauvain. » Si vous trouvez cette bague trop somptueuse, vous ne pourrez pas refuser une modeste ceinture. » Et la dame dénoue une ceinture de soie verte tressée de fils d'or qu'elle portait autour de la taille. C'est une ceinture magique. L'homme qui la porte est protégé contre toute atteinte. Gauvin pense aussitôt que si la dame dit vrai, avec cette ceinture, il n'aura plus rien à craindre du chevalier vert. Aussi accepte-t-il. La dame l'embrasse et lui dit en sortant « Promettez-moi de n'en rien dire à mon mari. » Quand Bersilac revient le soir, Gauvin, resplendissant dans un pourpoint de velours turquoise ourlé d'hermine, s'avance vers lui et l'embrasse sur les deux joues. « Je n'ai pas grand-chose à vous offrir en échange, » dit Bersilac. « Voici tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. » Et il jette aux pieds de Gauvin le corps raidi d'un minuscule renard. Cela n'empêche pas la compagnie de passer une bruyante et joyeuse soirée. On boit, on chante, on raconte des histoires. À la fin de la soirée, Gauvin se lève, embrasse son hôte et le remercie pour son hospitalité. Bersilac promet au jeune homme de lui donner le lendemain un serviteur qui le conduira à la chapelle verte. Le lendemain matin, Gauvin s'habille rapidement. Il n'oublie pas de nouer la ceinture verte autour de sa taille. L'aube est sombre et froide. Gauvin enfourche son cheval, Gringalet, et accompagné de son guide, il repasse le pont-levis. Les deux hommes chevauchent en silence à travers les bois glacés. Tout à coup, le serviteur s'arrête. « Messire Gauvin, nous sommes tout près de la chapelle verte. Je vous conjure de ne pas aller plus loin. C'est un endroit sauvage et dangereux. Le chevalier vert est un être terrifiant, d'une force redoutable. Si vous continuez, votre mort est certaine. »« Merci de vos conseils, » répond Gauvin, « mais je ne suis pas un lâche. Rien au monde ne me fera renoncer à aller jusqu'à la chapelle verte. Dans ce cas, voici votre aume, votre écu et votre lance. En suivant cet étroit sentier entre les rochers, vous arriverez à la chapelle verte. » Gauvin éprône Gringalet et descend au fond du ravin. Mais là, aucune trace de chapelle. Seul un gros bloc de rocher aux arêtes tranchantes domine le chemin. Derrière se dresse un tumulus couvert d'herbes drues. Le monticule présente une ouverture à chaque extrémité. Qu'est-ce que cela ? Gauvin descend de cheval et s'approche avec méfiance du tumulus. Le lieu semblait désert. Tandis que Gauvin fait le tour du monticule, un sifflement strident monte de toutes parts. Mais qu'est-ce encore ? Restez où vous êtes et préparez-vous à recevoir le coup que je vous ai promis. Le chevalier vert apparaît alors au sommet du mamelon. Il fait tournoyer autour de sa tête la hache, finement aiguisée, qui scintille d'une lueur mortelle. « Bienvenue, messire Gauvin. Je vois que vous êtes homme de parole. Retirez votre aume, c'est à mon tour de frapper. » Gauvin retire son aume, s'agenouille devant le chevalier vert, dégage sa nuque. Le chevalier vert, de toute sa puissance, abat son arme. Mais Gauvin, instinctivement, s'est penché en avant et la lame passe à un cheveu de son cou. « Comment ? » hurle le chevalier vert. « Auriez-vous peur ? Seriez-vous assez lâche pour tenter d'échapper à votre parole ? Ai-je tremblé lorsque j'étais agenouillée à vos pieds ? Je ne bougerai pas la prochaine fois, je vous le promets. Même si ma tête tombe à terre, je ne faillirai point. Alors, à nous deux, maintenant !» Le chevalier vert brandit sa hache, mais il ne la fait pas retomber complètement. « Je vais maintenant pouvoir éprouver le courage du plus fameux des chevaliers de la table ronde. Je vais enfin savoir de quel bois vous êtes fait. Cela suffit, frappez et finissons-en. Vous avez ma parole, je ne tremblerai pas. » Alors, la hache s'est abattue sur la peau blanche de la nuque de Gauvin. Mais, quoique violent, le coup n'a fait que l'effleurer. Quand Gauvin a vu quelques gouttes de sang jaillir sur la neige, il a bondi sur ses pieds. Jamais il ne s'était senti aussi léger. Il a saisi sa lance et son bouclier. « Assez ! J'ai rempli notre marché. Vous ne pouvez plus me porter un nouveau coup. »« Du calme !» réplique le chevalier vert. Notre pacte est accompli, c'est vrai. Je comptais vous faire subir un sort beaucoup plus terrible. Les deux premières fois, j'ai fait semblant de vous frapper. C'était pour les deux soirs où vous avez tenu parole et vous avez donné à votre hôte le baiser que sa femme avait reçu de vous. La troisième fois, je n'ai fait que vous égratigner. Pour vous punir d'avoir caché la ceinture verte que vous portez autour de votre taille. Votre hôte a tout su de votre cour et de vos baisers. C'est lui qui avait demandé à son épouse de vous éprouver. Mais votre serment était de paille. Vous avez failli à votre parole. Gauvain en a été comme foudroyé. Le rouge de la honte a empourpré son visage. J'ai trahi le code de la chevalerie. Je ne suis pas digne de demeurer parmi les compagnons du roi Arthur. Gauvain a arraché la ceinture verte, l'a jetée sur le sol et s'apprêtait à partir. Mais le chevalier vert l'a retenu. « Non, Gauvain, vous avez fait amende honorable en acceptant que je vous frappe. De plus, vous avez confessé votre faute. Vous êtes aussi net que si vous n'aviez jamais trébuché. Quant à la ceinture verte, acceptez-la comme cadeau et portez-la comme gage de votre exploit. Merci, messire. J'accepte cette ceinture, mais comme signe de ma faiblesse. Si je suis un jour tenté de faillir, je n'aurai qu'à la regarder pour retrouver la foi en mon serment. Mais puis-je vous demander une faveur? Qui êtes-vous? Je suis Bersilac du Haut-Désert. C'est la fée Morgane qui me transforme à son gré en chevalier vert. C'est elle qui m'a envoyé à la cour du roi Arthur pour s'assurer que la renommée des chevaliers de la table ronde n'était pas usurpée. C'était elle, la vieille femme qui accompagnait mon épouse dans la chapelle la nuit de la nativité. Bersilac invite alors Gauvain à revenir avec lui au château, mais Gauvain refuse, tout en le remerciant de son hospitalité. Et Gauvain a pris le chemin du retour. Il est revenu au château de Camelot, la ceinture verte nouée en travers de la poitrine, afin que chacun puisse l'admirer. Gauvain a été accueilli avec joie et soulagement par Arthur, Guenièvre et tous les chevaliers. Ils étaient tous impatients de connaître le récit de ses aventures. Gauvain a raconté, il n'a rien caché. Et quand il a eu terminé, Arthur l'a félicité pour son courage, sa noblesse et son honnêteté. Et il a décidé que désormais, tous les chevaliers de la table ronde porteraient une ceinture de soie verte, signe d'honneur et de pureté de cœur. Thank you.
alors Annie, c'est quoi cette histoire?
Comment c'est quoi cette histoire?
Oui, pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est?
Ah, si je savais. Ben, ça fait partie du cycle des aventures du roi Arthur. Est-ce que c'est vraiment authentique? Ça, j'en mettrai pas ma main au feu, j'en sais rien. J'ai trouvé deux livres qui sont très bien illustrés. Et comme je suis passionnée par le Moyen-Âge et notamment par les récits qui concernent le roi Arthur, bien sûr, cette histoire ne m'a pas laissée indifférente. Alors, ce qui est surtout là un peu étonnant, c'est qu'il y a eu une très belle exposition à la Bibliothèque nationale sur le roi Arthur, le cycle du roi Arthur. Il y avait des grands panneaux sur les principaux personnages et sur celui de Gauvin, il y avait marqué « Gauvin ne s'est jamais marié ».
T'es allé les détromper?
Mais je pense qu'il y a beaucoup de versions, comme dans les contes mythologiques d'ailleurs, il y a des tas de versions, donc après tout, tant pis.
Ça, c'est, celle-là, en tout cas, c'est une des petites histoires parallèles au grand courant.
Oui, sans doute, oui, bien sûr.
Des cycles
du roi. Il y a eu plusieurs héros dans cette histoire, comme Lancelot du Lac, enfin, il y a différents récits, quoi. Mm. Ben, ça, c'est peut-être des petites histoires... disons plus anecdotique, mais je les trouve, moi, elles me plaisent beaucoup.
Ah ouais,
oui, voilà. Alors, de toute façon, il y a de multiples versions de toutes ces histoires-là. Alors,
celle-là, cette version-là, c'est toi qui l'as composée.
Ben, c'est-à-dire que oui, j'ai refait le texte. Je me suis beaucoup inspirée du livre que j'avais trouvé, bien sûr, mais j'ai refait le texte pour le rendre plus oral, enfin, me le mettre en bouche plus facilement, parce que quand on trouve un texte dans un livre, c'est pas notre langue en général, donc je l'ai arrangé à ma façon.
Et en général, tu la racontes avec deux autres récits, tu m'as dit, c'est quoi ?
Oui, ben, c'est-à-dire pour faire un spectacle, il faut que ça dure au moins une heure. Et là, j'avais raconté ça à la mission bretonne. Et donc, j'avais jumelé Gauvin et le Chevalier Vert avec le mariage de Gauvin, qui est une suite, enfin, si on peut dire, une autre aventure de Gauvin. Et j'avais ajouté un fabliau du Moyen-Âge que je trouve très drôle, mais que je n'aurai pas le temps de raconter là, et qui s'appelle « Es-tu là ?». Et j'adore cette histoire, en plus, c'est pas politiquement correct du tout, puisqu'en fin de compte, c'est les voleurs qui sont, pourrait-on dire, les héros de l'histoire, mais je trouve ça très très drôle.
C'est une farce, parce que Es-tu là, c'est le nom de...
C'est le nom du chien, ce qui donne évidemment lieu à pas mal de quiproquos. Bon, c'est l'histoire de deux pauvres herdes qui sont déjà excusés depuis le début parce qu'on dit que comme ils avaient perdu leurs parents quand ils étaient en bas âge, ils n'avaient eu personne pour les élever, pour leur donner une éducation. Et donc, voilà, ils survivent comme ils peuvent. Et puis, ils ont comme voisin un riche paysan complètement crétin. Enfin, vraiment, c'est des comptes de compensation, ça. Et qui est très, très riche, qui a des terres, des troupeaux et tout. Et eux, ils sont évidemment indignés. Enfin, ils se sentent injustement traités.
Je connaissais pas, Annie, ce terme de compte de compensation.
Ah, moi j'appelle ça...
On parle de compte de compensation comme on parle de rêve de compensation.
Ben, moi j'appelle les comptes de compensation, les comptes de compensation, tous ceux en fait qui ont été inventés par des gens du peuple pour essayer de se réconforter un petit peu. Comme ils subissaient des injustices, eh ben, ils trouvaient le moyen de prendre les choses du bon côté en se racontant des histoires. C'est pour ça qu'il y a pas mal de contes, d'ailleurs, qui ridiculisent le clergé, le curé du coin notamment, ou le seigneur, qui est souvent extrêmement autoritaire, mais pas mal abruti. Enfin bon, moi j'appelle ça des comptes de compensation, quelque part, quoi. C'est une façon un petit peu de survivre... dans la joie, alors qu'on n'a pas tellement de motifs de se réjouir en général, quoi. Enfin, voilà. Oui, j'appelle ça compensation. C'est un peu comme je dis que les contes sont aussi une compensation pour les malmenés de l'existence.
Ah, tu dis ça?
Ah oui, moi, pour moi, totalement. Par exemple, j'adore raconter des histoires dans des milieux très défavorisés, les enfants qui sont vraiment démunis, les ados qui sont rejetés de partout, quand ils peuvent écouter des histoires, pour eux c'est merveilleux. Enfin, en plus, ils se sentent sur un pied d'égalité avec les autres, ils peuvent les comprendre, alors qu'à l'école, souvent, ils sont les queues de classe, enfin bon, bref. Et pour moi, c'est très important. Je pense que là, on touche quelque chose. D'ailleurs, ils vibrent dans les histoires, ils posent des questions. C'est comme si l'histoire était vraie pour eux. Et pour ça, quand on m'a annoncé, enfin là je ne le fais plus tellement, mais quand on m'annonce un public difficile, je me réjouis d'avance. Le problème, c'est simplement de s'imposer tout de suite, de pouvoir prendre la parole. Ça, il faut avoir dans sa besace ce que j'appelle des contre-chocs, des choses qui puissent leur couper le sifflet et nous permettre de commencer. Parce qu'une fois qu'on a commencé à raconter, après ils sont bouche bée généralement, ils sont prêts à tout entendre. Mais il faut pouvoir s'imposer dès le départ, quoi.
Ah, mais c'est joli cette manière de... dire qu'en effet, c'est un endroit où ils sont les égaux. De...
Ah oui, pour moi, oui. Ben oui, parce que le langage des contes est généralement simple. C'est toujours une langue simple, juste, mais simple. Et ils peuvent très bien la comprendre. Et puis en plus, il y a l'interprétation du conteur. Évidemment, hein, on y met le ton, les intonations, tout ce qu'il faut. On incarne la parole, on incarne ces personnages. Donc c'est vivant et ils peuvent très bien suivre. Et alors moi, je m'efforce évidemment, moi je crois tout à fait à cette formule, si on peut dire, qui est d'ailleurs un rituel dans un pays lointain où le public demande au conteur, lui dit « vois pour que nous puissions voir ». Alors pour moi, ça c'est la clé de tout. Si on ne voit pas ce qu'on raconte, ben les gens ne verront pas grand-chose non plus. Pour moi, c'est très très important. Donc il faut faire un effort d'imagination, et c'est pour moi, c'est pratiquement l'essentiel.
En fait, le conte, c'est... ancêtre du cinéma.
Oui, et quelquefois des gens m'ont dit, une fois j'ai raconté pour des cas sociaux qui étaient dans un hôtel, enfin des gens vraiment très mal en point, et à la fin, ils ne vont jamais au spectacle, à la fin il y a une dame qui m'a dit, madame, c'est comme si j'avais vu un film. Et bien j'étais super contente. Alors là franchement, oui pour elle, elle avait vu un film. Et je me suis dit que j'avais réussi mon coup.
C'est quoi,
fois un enfant aussi m'a dit, madame, on a tout vu. Ah, j'aime bien quand on me dit ça.
C'est quoi, tu disais, il faut commencer par un conte choc. Par exemple, c'est quoi un conte choc?
Ah, pour moi, c'est soit un conte très drôle. Bon, si le public n'est pas trop dissipé, on peut s'amuser à poser des devinettes parce que c'est un échange. Les faire chanter, ça, c'est pas toujours facile, ils ne sont pas habitués, donc ça risque de tourner vite au charivari. Mais, ou alors quelque chose de très drôle, ou alors un conte terrible. Quelque chose vraiment, parce que souvent, ils croient que les contes, c'est pour les petits. Quand ils me disent « Oh, tu vas nous raconter le petit chaperon rouge ?» Et moi, je leur dis souvent « Si je vous racontais ma version du petit chaperon rouge, vous verriez que ce n'est pas ce que vous croyez. » Bon, alors, un conte vraiment costaud, quoi. Et j'en ai quelques-uns pour ça. J'ai un conte amérindien. Quand je le raconte, je suis sûre d'obtenir un silence de mort à la fin. Même une fois, j'ai eu affaire à... J'étais dans un collège et les classes étaient très, très houleuses et très dissipées. Il devait y avoir deux classes de sixième. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ils vont avoir droit à crâne de spectre. » Et à la fin de l'histoire, il y a eu un grand silence. Et puis, il y en a un qui me dit, « Madame, vous ne voulez pas nous raconter les trois petits cochons ?» Ils avaient flippé, littéralement. Mais ça, c'est utile. Enfin,
crâne de spectre.
Oui, enfin, c'est pas le titre qui est dans le bouquin, mais enfin, oui, c'est une histoire. Une histoire très surprenante, d'ailleurs, que je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait, mais c'est une histoire qui fait son
effet.
C'est
marrant, d'ailleurs, tu dis « voir ». Que nous puissions voir, mais ça ne veut pas dire comprendre que nous puissions comprendre. Ça veut dire que t'es pas,
non.
Le conteur n'est pas obligé de comprendre tout ce qu'il dit.
Non, il y a même des conteurs qui disent qu'ils racontent pour comprendre. Alors non, moi, ce n'est pas tout à fait le cas. Non, moi, ce que j'essaye, moi, pour moi, il y a une chose, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que la plupart des gens disent « Oh, c'est une histoire, donc on peut raconter n'importe quoi. » Et là, je sais par expérience que ce n'est pas vrai. Si on prend un conte venu d'une culture différente de la nôtre, d'un pays lointain, la Chine ou les contes inuits, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Pas du tout. Parce qu'en fait, même si les contes sont symboliques, sont remplis d'événements féeriques extraordinaires, ça s'appuie sur une réalité qui, elle, doit être vérifiable et juste, exacte. Parce que si dans cette réalité, il y a quelque chose qui cloche, il y aura toujours quelqu'un qui s'en apercevra. Et ça, c'est grave. Parce que pendant que la personne se pose des questions, elle sort de l'histoire. Moi, je me suis fait remettre en place plusieurs fois, donc dans mes stages notamment. Pour donner un exemple, une fois, une fois, j'ai raconté un conte scandinave.
Juste pour dire, oui. T'es une conteuse de longue date et tu donnes des stages, par exemple.
Eh bien, les stages, en fait, je suis formatrice à l'âge d'or depuis 25 ou 30 ans, enfin depuis le début. C'est donc une association qui est destinée en principe à fournir des loisirs et et toutes sortes de choses, d'ailleurs des voyages, à des personnes retraitées. Mais heureusement, en ce qui concerne la formation au compte, ça a été ouvert à tout le monde. Donc dans un même stage, une fois, j'ai eu une bibliothécaire de 18 ans et un pasteur de 90 ans. Moi, je trouve ça très intéressant, ce mélange des... C'est pas toujours facile à gérer, mais tout le monde a à y gagner, à mon avis. Parce que les personnes âgées, qui sont souvent d'ailleurs très dynamiques, mais elles bénéficient quand même de la vitalité des jeunes, et les jeunes, ils bénéficient de l'expérience des plus anciens. Et je trouve ça se passe toujours très bien. De toute façon, j'ai remarqué depuis longtemps, quand on est dans le compte, les âges, ça ne compte plus.
Alors, il n'y a plus de génération. Un jour, dans un stage, il y a un stagiaire qui t'a fait remarquer que... Que quoi ? Tu t'étais trompée dans une histoire ?
Ah oui, non, c'est une jeune stagiaire, toute jeune. Je racontais une histoire où un jeune homme se métamorphose en oiseau parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il dit à son père, je vais aller te chercher des coques de bruyère, tu vas voir. Bon, il se métamorphose donc, et j'ai dit qu'il se métamorphosait en faucon, puisqu'autrefois on dressait les faucons pour la chasse. Et donc il allait chercher des coques de bruyère qu'il rapportait à son père, et qu'après il avait un très beau tableau de chasse. Et c'est là que cette jeune fille me dit, vous vous y connaissez en oiseau ? Je sentais le piège. Elle me dit, vous avez déjà vu un faucon ? Je dis, oui, c'est pas très grand. Vous avez déjà vu un coq de bruyère ? J'en avais jamais vu. C'est grand comme un dindon. Énorme. Elle me dit, vous croyez qu'un faucon peut rapporter des coques de bruyère à son maître ? Alors là, j'avais bonne mine. Et alors, en plus, j'ai accusé le bouquin d'où j'avais tiré l'histoire en disant n'importe quoi, erreur de traduction. Et c'est moi qui avais rayé sur le livre. Il y avait autour... Autour, c'est un immense rapace qui peut rapporter des coques de bruyère à son maître. Mais je me suis dit, ils connaissent pas les enfants, allez hop, je vais mettre faucon, c'est plus connu, sans me renseigner. Voilà. C'est le genre de choses. Alors ça, quand quelqu'un se rend compte d'une erreur de ce genre,
il t'écoute plus.
C'est fichu. Alors comme ça m'est arrivé un certain nombre de fois, et que je me suis aperçu que même des enfants de 5 ans sont capables de s'en rendre compte, je fais attention maintenant. Et je dis à mes stagiaires, si vous choisissez de laisser le compte au Japon avec les noms japonais et tout, renseignez-vous sur la nourriture, sur l'habitat. Il n'y a rien de plus traître que l'habitat. Et du coup, l'histoire n'est plus crédible. Par contre, personne ne trouve à redire, tout le monde trouve normal qu'un jeune homme se transforme en oiseau.
Annie, mais tu racontes pourquoi faire ?
Pourquoi faire ? Mais d'abord pour me faire plaisir à moi, faut bien le dire quand même, moi c'est ma raison de vivre, ça m'a sauvé de tout, le conte pour moi c'est un enchantement, je ne pourrais pas m'en passer, d'ailleurs ça a toujours été une passion, quand j'étais gamine je lisais énormément de contes, j'adorais ça, hein. C'était quand même déjà là, mais en même temps, si on veut qu'il y ait une utilité, comme je l'ai dit, c'est une compensation, c'est surtout un réconfort, vraiment une sorte de consolation pour un grand nombre de gens. Je vois à l'âge d'or, par exemple, je crois que j'ai sauvé du désespoir certaines personnes âgées qui attendaient la mort, tout simplement, qui dépérissaient complètement. Le fait déjà de pouvoir écouter des histoires et en raconter, c'était un second souffle. On me l'a dit, ça. Il y a des gens que ça a sauvé. Vraiment, c'est magnifique. Par exemple, je dis aussi que ça redonne leur dignité à ceux qui l'ont perdu. Ça va jusque-là pour moi. La seule fois où j'ai raconté en prison, ça a été une épreuve pour moi, mais surtout pour eux, j'imagine, à la prison de la santé, qui est une horreur absolument, surtout à l'époque où j'y suis allée, c'était monstrueux. J'avais avec moi une douzaine de détenus, toute seule avec eux, je ne savais pas du tout ce qu'ils avaient fait. Et à la fin, j'ai raconté des histoires. Eux-mêmes étaient chargés aussi de raconter des choses, même des devinettes ou une petite histoire. Ils l'ont tous fait, sauf un. Et là, j'ai pu voir leurs préoccupations. Et donc, à la fin, il y a un Libanais, je le sais parce qu'il l'a dit, est venu me voir et très cérémonieusement, il m'a remercié, il m'a dit au revoir et il m'a dit « Madame, ça fait 5 ans que je suis dans cet établissement, c'est la première fois qu'on me considère comme un être humain. » Alors voilà, peut-être qu'on raconte aussi pour que les gens gardent leur humanité. Moi, je dis que c'est un facteur d'humanité.
Et voilà, c'est pas pour dire, c'est tout pour aujourd'hui. Mais Angèle Goduchot et Aniki sont toujours en grande conversation. Il y aura certainement une émission prochaine. Il y sera question des pionniers du conte, de la bibliothèque de l'heure joyeuse, avec Mathilde Leriche et Marguerite Gruny. Également de Geneviève Pat et de la petite bibliothèque de Clamart. Du conteur Bruno de la Salle. Des premiers groupes de conteurs réunis à la bibliothèque du Centre Georges Pompidou. Suite de cette conversation, donc, dans la prochaine émission de C'est pas pour dire.